Bon, je vais parler en français. Je m'excuse si c'est un peu lent et je vais peut-être comme sauter un peu à l'anglais, mais on va voir. Donc, juste pour raconter un peu d'une histoire, comment j'avais eu l'idée pour cet atelier, je dirais que j'ai un peu d'une obsession avec Emma Goldman. J'avais la bonne chance d'être dans une pièce de théâtre avec quelques personnes ici dans la salle le printemps passé à propos de Emma. C'était vraiment une expérience géniale d'être comme dans une pièce de théâtre qui a été produite dans une manière non hiérarchique et collective. Et j'ai juste comme beaucoup de mémoires chaleureux à propos de ça. Puis juste aussi comme parce que je suis aussi juif et d'être quelqu'un qui est juif aujourd'hui ou la grande ouais Jew with an identity crisis, une crise d'identité, mais d'être un juif aujourd'hui ou comme la plus grande tendance dans la communauté juive, c'est le zionisme. Pour moi, c'était un peu triste parce que si on étudie l'époque d'Emma Goldman, je ne veux pas dire la majorité, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs à ce temps-là qui étaient des radicaux, comme des communistes ou des anarchistes. Alors pour moi, c'est intéressant de voir comme cette période d'histoire où il y avait des grandes tendances et des grands mouvements juifs et anarchistes. Alors, Emma Goldman, c'est un peu comme l'étoile de cette époque. Et aussi, le mois passé, je travaillais à Fairmount Bagel. Et c'était crissement ennuyant parce que pendant tous mes shifts, je mettais des bagels dans les sacs. Et comme quand je travaillais, comme mon cerveau, ça faisait des petits voyages. Et je pensais, OK, ben maintenant, je suis étudiant dans le programme d'études féministes à Concordia. Et je viens de à propos du même sujet, je pensais comment est-ce que je peux comme prendre ce que je fais en école que je déteste et amener ça comme dans un milieu où on peut vraiment agir ou apprendre quelque chose d'utile de Emma Goldman. Alors j'ai pensé de faire cet atelier ici et j'espère qu'on peut avoir comme une discussion après de vraiment tirer des leçons d'Emma Goldman, parce que aussi je pense que c'est important de souligner que Emma Goldman c'était quelqu'un qui militait comme dans les années 1910-1920. Elle est morte en 1940, puis c'est intéressant parce qu'elle continuait de militer jusqu'à la fin, comme jusqu'à la mort, même dans les années 1930, comme 1936. Est allée en Espagne pour aider la guerre civile là-bas. Puis comme Loka a mentionné tantôt, elle est morte à Toronto. Et mais je pense que ses idées et ses actions, ils portent beaucoup de poids aujourd'hui. Et ils sont vraiment importants parce que l'anarchie, c'est toujours une idée, un mouvement qui est vraiment pertinent. Aussi que le féminisme. Alors, on veut prendre les idées d'Emma Goldman et vraiment voir comment on peut les mettre en action dans le mouvement anti-guerre actuel.
Je vais juste interrompre 2 secondes parce que j'ai oublié de le mentionner au tout début, mais on va pas parler comme ça pendant 2 heures. Il l'a mentionné, mais on a chacun une brève présentation à faire, relativement brève, puis ensuite, on va passer à la discussion. Donc, si vous avez des choses ou des idées, des questions ou des commentaires, gardez-les à l'esprit pour la discussion après ou notez-les. Là. On va repasser.
Ouais.
On va pas parler, on n'est pas mégalomane à ce point-là. Mon Dieu, ça avait l'air dubitatif.
Okay. Alors, je veux juste comme essayer de faire comme vraiment un bref historique sur la vie d'Emma Goldman, mais pour la plupart, juste comme son militantisme autour de la Première Guerre mondiale. Fait que la Première Guerre mondiale, ça a duré entre 1914 puis 1918. C'est ça? Oups. OK. 18. Merci. Et, mais on va vraiment concentré sur Emma Goldman et non pas la guerre, parce que la guerre, c'est quelque chose qui me fait chier. J'ai pas comme vraiment l'habitude de parler derrière d'un ordi, alors c'est intéressant. Ben, comme Christine a mentionné avant, c'était intéressant parce que Emma Goldman, avant 1917, et 1917 c'était l'année où les États-Unis ont décidé d'entrer dans la guerre en Europe. Elle militait beaucoup autour des enjeux comme pour les droits de contraception, les droits de la femme, pour les droits des ouvriers aux États-Unis. Puis 1910 est venu, puis elle a décidé de comme tout lâcher pour vraiment concentrer ses énergies sur son militantisme anti-guerre. Et c'est pas à dire que qu'elle était pas vraiment passionnée avec les autres enjeux, comme c'était toujours des choses qui étaient vraiment importantes pour elle, mais c'était juste plutôt que je pense qu'elle a vu que son pays c'était en crise, puis il fallait faire quelque chose, et surtout c'était important pour les anards de réagir à ce temps-là. Alors, j'ai parlé de comme des critiques de Emma Goldman à propos de la guerre, parce que de même qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a des groupes tant que Échec à la guerre, puis il y a d'autres groupes comme des ONG qui s'opposent aux guerres. Mais c'est toujours intéressant de voir comme les différentes philosophies dans le mouvement anti-guerre, puis comment les différents groupes anti-guerre se positionnent. Parce que, comme Loka a mentionné avant, bloquer l'Empire, ça a vraiment comme une philosophie, puis des tactiques qui sont beaucoup différentes d'échec à la guerre. C'est la même chose pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait toutes sortes de différents groupes qui s'opposaient à la guerre, mais pour des raisons différentes. Alors, on veut vraiment comme focusser sur l'anarchisme d'Emma Goldman. Puis elle s'opposait à la guerre vraiment sur comme trois bases, et je vais parler un peu à propos de ces bases. Le premier, c'était une critique à propos de la lutte des classes. Alors, il y a le ligne anarchiste « No war but the class war » qui veut dire que c'est vraiment hypocrite d'aller faire des guerres outre-mer quand la vraie guerre, c'est ici, dans les usines, dans les mines, c'est autour de nous. Et cette idée d'imposer une démocratie en Europe, quand il n'y avait pas de démocratie, pas de justice pour les ouvriers et ouvrières aux États-Unis, c'était comme juste une idée complètement fou pour Emma Goldman. Alors, elle a vraiment essayé de souligner ça avec ses écritures. Et elle a parlé beaucoup à propos du military-industrial complex, c'est-à-dire comme tout le système capitaliste qui soutenait la guerre et qui profitait de la guerre. Puis, juste pour faire ce lien avec aujourd'hui, comme il y avait des industries aux États-Unis comme cuivre, comme l'industrie du cuivre et d'autres qui faisaient beaucoup d'argent de la guerre en Europe. Même chose qu'aujourd'hui, on a des compagnies comme SNC-Lavalin qui construisent des balles pour les forces d'occupation en Irak, comme Bombardier. Comme il y a une compagnie qui a des bureaux ici à Montréal, Pratt & Whitney, qui font des parties pour des avions de guerre pour Israël. Alors, c'est intéressant parce qu'Emma parlait à propos de cette classe capitaliste qui profitait de la guerre à cette époque. Puis on peut voir que comme c'est presque la même affaire aujourd'hui. Il y a cette comme incentive économique pour la guerre, c'est ça, incentive?
Un encouragement, un motif.
Alors ça, c'était le premier qui était vraiment important. Puis le deuxième, c'était sans critique du nationalisme. Elle a écrit un essai qui est vraiment spectaculaire, c'est tu lances ce bouquin ici, et ça s'appelle simplement Le patriotisme.
Le bouquin il est disponible aussi, il y en a qui le veulent, là.
Ouais.
À partir près de l'insoumis.
Et, sans critique avec le nationalisme, parce que c'était vraiment le nationalisme qui était comme l'essence, le gaz pour l'Europe, ou pour la guerre en Europe. Et, ce qu'elle disait, c'était comme un peu un rêve, ou c'était vraiment bizarre de comme créer un nationalisme autour de toutes les personnes dans une région du monde spécifique, ou comme toutes les personnes aux États-Unis, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup en commun en tel que ça. Et elle disait que ça a créé des collaborations de classe qui étaient vraiment dangereuses. Puis ce qu'elle revendiquait, c'était plutôt comme au lieu d'avoir un nationalisme comme dans une région géographique, c'était plutôt pour les ouvriers et les ouvrières autour du monde de se lier contre leurs patrons et contre tout qui les exploitait. Alors ça, c'était comme le deuxième. Puis le troisième que je pense qui est vraiment important et surtout quelque chose qui lie ces idées anti-guerre avec son militantisme féministe, c'était son critique de la guerre basée sur ses idées de l'expression libre. Et si on pense d'aujourd'hui, et on pense de l'an septembre, puis de l'époque après ça, et la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, je pense que ce qu'on voit dans un certain sens, c'est on voit que c'est vraiment impossible de mener une guerre encore outre-mer, au Proche-Orient ou n'importe où, peut-être en Iran, peut-être en Corée du Nord, sans avoir comme une moyen ou une façon de réprimer le peuple ici, chez nous, comme dans le centre de l'impérialisme. Alors, surtout ce qu'on a vu après l'an septembre, c'est la guerre contre le terrorisme, qui veut dire comme les certificats de sécurité, la répression et le racisme vers les immigrants, la brutalité policière, comme toutes sortes de choses qui se manifestent comme chaque jour dans nos vies et qui, dans un certain sens, sont en train d'écraser une expression libre. Et comme pour elle, c'était vraiment important, tant qu'une femme, d'avoir cette expression libre. Elle croyait beaucoup dans l'amour libre, free love, comme de jamais rester avec une seule personne pour toute sa vie. Elle était vraiment critique du mariage, parce que c'était une institution qui faisait ce lien entre l'amour et l'État. Puis l'amour, elle pensait que c'était quelque chose de vraiment incroyable, puis l'État, c'était quelque chose qu'elle détestait. Alors, un peu comme si on peut faire cette comparaison entre la guerre contre le terrorisme et les certificats de sécurité qu'on voit aujourd'hui, il y avait des choses vraiment parallèles ou similaires dans son époque aussi. Il y avait comme le Selective Service Act, qui était une loi faite juste avant la guerre, qui disait que si tu es un gars entre tel âge et tel âge, il fallait joindre à l'armée. Puis il y a aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup de pays qui pratiquent les mêmes sortes de choses. Un exemple intéressant dans une démocratie, je dis démocratie comme ça parce que moi j'y étais, je pense pas que c'est une démocratie, c'est l'Israël. Et en Israël, c'est pas une option. Il faut faire ton service militaire quand tu as 18 ans, sauf dans certains cas d'exception. Mais il y a un groupe en Israël qui s'appelle Yesh Gavul. Et c'est un groupe de personnes qui refusent d'être dans une armée. C'est pas nécessairement anarchiste, Mais il y a comme plein d'anars israéliens qui refusent d'être dans l'armée aussi. Mais c'est juste intéressant de voir comment cette idée de refusnik, de refuser la conscription et la guerre, ça reste avec nous. Et une autre chose qui est vraiment importante, c'est que elle croyait beaucoup dans comme l'idéal de la démocratie aux États-Unis. Ce n'était pas quelque chose qui existait, mais Emma était une immigrante. Alors, comme beaucoup d'autres immigrants, elle est venue aux États-Unis avec une idée d'un pays où elle pourrait être comme sauvegardée, où elle pourrait trouver la justice, mais elle l'a pas trouvé. Alors, ce qu'elle voyait, c'était vraiment comme des lois, la répression qui était vraiment dangereuse pour cette démocratie aux États-Unis. Puis aussi, j'ai mentionné un peu comme le racisme et la discrimination envers les immigrants. Emma Goldman et son amante Alexander Berkman.
Son amant.
Je pense son amant. I'm wearing too much clothes. Je suis en train de suer. Les deux ont été déportés sur un bateau qui s'appelait le SS Buford. Et sur ce bateau, il y avait 235 anarchistes et communistes. Alors, c'était comme une période qu'on disait un Red Scare, où le gouvernement voulait trouver comme un scapegoat.
Bouc émissaire.
Yeah, bouc émissaire. J'adore ce mot. Où ils voulaient trouver un bouc émissaire, alors c'était vraiment convenable de juste blâmer les anarchistes et les communistes et toutes ces personnes qui faisaient des troubles dans la société. Et encore juste pour faire ce lien, quand on voit que les déportations, c'est toujours une mesure, toujours une loi que le gouvernement peut invoquer pour, pas nécessairement comme réprimer la résistance, mais surtout pour créer cette distinction entre qui est citoyen ou citoyenne et qui n'est pas. Et pour juste utiliser ça, de créer dans un sens comme le bon Canadien versus la mauvaise Canadienne. Et on voit ça beaucoup avec qui peut gagner ses papiers parce qu'ils ont une bonne éducation ou ils viennent du bon pays, où ils ont assez d'argent. Alors, c'est juste à dire que comme ces problèmes ne sont pas disparus, comme ils sont toujours ici aujourd'hui. Puis, il y a toujours des anarchistes qui luttent autour des enjeux de l'immigration, de la guerre. Et je veux juste terminer en disant que si on peut comme tirer deux ou trois leçons concrètes du militantisme d'Emma Goldman. Le premier, c'est de toujours essayer de voir qu'il y a des effets concrets de la guerre qu'on peut voir ici au Canada. C'est pas que si on envoie une armée canadienne en Afghanistan ou n'importe où, la guerre va juste être là. Il y a toujours comme des effets ici qu'il faut souligner. Un de ces effets que je voulais mentionner, parce que c'est vraiment récent dans les nouvelles, le gouvernement de Stephen Harper vient de mentionner qu'ils vont fermer les bureaux de...
La condition féminine.
Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est vraiment comme...
Mais on va aller construire des écoles en Afghanistan pour les femmes.
Ouais, c'est ça. Alors, on peut vraiment voir...
On exporte le féminisme.
On peut vraiment voir les priorités d'un gouvernement patriarcal qui est en train de, comme... couper les droits de la femme ici, mais en même temps, ils sont en train de faire une occupation en Afghanistan pour dire qu'ils vont libérer les femmes afghanes. Alors, c'est vraiment fou. Puis aussi, de comme vraiment essayer d'utiliser les idées, les tactiques anarchistes, antiracisme et antiféministes dans les groupes anti-guerre aujourd'hui ici. Parce que comme on voit que c'est souvent le racisme et le sexisme qui donnent un motif au gouvernement pour faire les occupations illégales. Alors, c'est juste à dire qu'il faut toujours être critique de ces phénomènes horribles ici. Et je pense que je vais laisser la parole à Loka pour
un bon segue, le féminisme.